Chapitre 1er, suite. De toute la famille, il n'y avait qu'une personne à laquelle Christophe ne prêtait aucune attention. C'était la petite Rosa. Elle n'était point belle. Et Christophe, qui lui-même était loin d'être beau, se montrait fort exigeant pour la beauté des autres. Il avait la cruauté tranquille de la jeunesse, pour qui une femme n'existe pas quand elle est laide, à moins qu'elle n'ait passé l'âge où l'on inspire la tendresse, et qu'elle n'ait plus le droit qu'à des sentiments graves, paisibles, quasi religieux. Rosa ne se distinguait d'ailleurs par aucun don spécial, quoiqu'elle ne fût pas sans intelligence, et elle était affligée d'un bavardage qui faisait fuir Christophe. Aussi ne s'était-il pas donné la peine de la connaître, jugeant qu'il n'y avait rien à connaître en elle. C'était tout au plus s'il l'avait regardée. Elle valait mieux pourtant que beaucoup de jeunes filles. Elle valait mieux en tout cas que Mina, tant aimée. C'était une bonne petite, sans coquetterie, sans vanité, qui jusqu'à l'arrivée de Christophe ne s'était pas aperçue qu'elle était laide, ou ne s'en inquiétait pas, car on ne s'en inquiétait pas autour d'elle. S'il arrivait que le grand-père ou la mère le lui dit, par gronderie, elle ne faisait qu'en rire. Elle ne le croyait pas ou n'y attachait aucune importance, et eux pas davantage. Tant d'autres aussi laides et plus avaient trouvé qu'il les aima. Les Allemands ont d'heureuses indulgences pour les imperfections physiques. Ils peuvent ne pas les voir, ils peuvent même arriver à les embellir par la vertu d'une imagination complaisante qui trouve des rapports inattendus entre toute figure et les plus illustres exemplaires de la beauté humaine. Il n'eût pas fallu beaucoup presser le vieux Euler pour lui faire déclarer que sa petite fille avait le nez de la Junon Ludovisi. Heureusement, il était trop grognon pour faire des compliments, et Rosa, indifférente à la forme de son nez, ne mettait d'amour-propre qu'à l'accomplissement, suivant les rites, des fameux devoirs du ménage. Elle avait accepté comme parole d'évangile tout ce qu'on lui avait enseigné. Ne sortant guère de chez elle, elle avait peu de termes de comparaison, admirait naïvement les siens et croyait ce qu'ils disaient. De nature expansive, confiante, facilement satisfaite, elle tâchait de se mettre au ton chagrin de la maison et répétait docilement les réflexions pessimistes qu'elle entendait. Elle avait le cœur le plus dévoué, pensait toujours aux autres, cherchant à faire plaisir, partageant les soucis, devinant les désirs, ayant besoin d'aimer sans idée de retour. Naturellement, les siens en abusaient, bien qu'ils fussent bons et qu'ils l'aimassent. On est toujours tenté d'abuser de l'amour de ceux qui vous sont tout livrés. On était si sûr de ses attentions qu'on ne lui en savait aucun gré. Quoi qu'elle fît, on attendait davantage. Puis elle était maladroite. Elle avait de la gaucherie, de la précipitation, des mouvements brusques et garçonniers, des expansions de tendresse qui amenaient des désastres. C'était un verre brisé, une carafe renversée, une porte brutalement fermée, toutes choses qui déchaînaient contre elle l'indignation de la maison. Constamment rabrouée, la petite s'en allait pleurer dans un coin. Ses larmes ne duraient guère. Elle reprenait son air riant et son caquet, sans ombre de rancune contre qui que ce fût. L'arrivée de Christophe fut un événement considérable dans sa vie. Elle avait souvent entendu parler de lui. Christophe tenait une place dans les potins de la ville. C'était une manière de petite célébrité locale. Son nom revenait souvent dans les entretiens de la famille Euler, surtout au temps où vivait encore le vieux Jean-Michel, qui, fier de son petit-fils, en allait chanter des louanges chez toutes ses connaissances. Rosa avait aperçu une ou deux fois au concert le jeune musicien. Quand elle apprit qu'il viendrait loger chez eux, elle battit des mains. Sévèrement semoncée de ce manque de tenue, elle devint confuse. Elle n'y voyait pas malice. Dans une vie aussi uniforme que la sienne, un hôte nouveau était une distraction inespérée. Elle passa les derniers jours avant son arrivée dans une fièvre d'attente. Elle était dans les transes que la maison ne lui plut pas, et elle s'appliqua à rendre l'appartement avenant autant qu'il était possible. Elle porta même, le matin de l'aménagement, un petit bouquet de fleurs sur la cheminée, comme souhait de bienvenue. Quant à elle, elle n'avait pris aucun soin pour paraître à son avantage, et le premier regard que lui jeta Christophe suffit à la lui faire juger laide et malfagotée. Elle ne le jugea point de même, encore qu'elle aurait eu de bonnes raisons pour cela. Christophe, exténué, affairé, mal soigné, était encore plus laid qu'à l'ordinaire. Mais Rosa, qui était incapable de penser le moindre mal de quiconque, Rosa, qui regardait son grand-père, son père et sa mère comme parfaitement beaux, ne manqua pas de voir Christophe comme elle s'attendait à le voir, et l'admira de tout son cœur. Elle fut fort intimidée de l'avoir pour voisin de table, et malheureusement, sa timidité se traduisit par ce flot de paroles qui lui aliéna du premier coup les sympathies de Christophe. Elle ne s'en aperçut pas, et cette première soirée resta dans son esprit un souvenir lumineux. Seule dans sa chambre, après qu'ils furent remontés chez eux, elle entendait les pas de nouveaux hôtes marcher au-dessus de sa tête, et ce bruit résonnait joyeusement en elle. La maison lui semblait revivre. Le lendemain, pour la première fois, elle se regarda dans la glace avec une attention inquiète, et sans se rendre compte encore de l'étendue de son malheur, elle commença à le pressentir. Elle chercha à juger ses traits un à un, mais elle n'y parvint pas. Elle avait de tristes appréhensions. Elle soupira profondément et voulut introduire dans sa toilette quelques changements. Elle ne réussit qu'à s'en les dire encore. Elle eut de plus la malencontreuse idée d'assommer Christophe de ses prévenances. Dans son désir naïf de voir constamment ses nouveaux amis et de leur rendre service, elle montait et descendait l'escalier à tout moment, leur apportant à chaque fois un objet inutile, s'obstinant à les aider, et toujours riant, causant, criant. Seule la voix impatiente de sa mère pouvait, en l'appelant, interrompre son zèle et ses discours. Christophe faisait grise mine. Sans les bonnes résolutions qu'il avait prises, il eût éclaté 20 fois. Il tint bon 2 jours. Le 3e, il ferma sa porte à clé. Rosa frappa, appela, comprit, redescendit confuse et ne recommença plus. Il expliqua, quand il la vit, qu'il était occupé à un travail pressant et ne pouvait se déranger. Elle s'excusa humblement. Elle ne pouvait se faire illusion sur l'insuccès de ses innocentes avances. Elles allaient droit contre leur but, elles éloignaient Christophe. Il ne prenait plus la peine de cacher sa mauvaise humeur. Il n'écoutait même plus quand elle parlait et ne déguisait pas son impatience. Elle sentait que son bavardage l'irritait, et elle parvenait, à force de volonté, à garder le silence pendant une partie de la soirée. Mais c'était plus fort qu'elle. Elle recommençait tout à coup sa musique. Christophe la plantait là, au milieu d'une phrase. Elle ne lui en voulait pas. Elle s'en voulait à elle-même. Elle se jugeait bête, ennuyeuse, ridicule. Ses défauts lui apparaissaient énormes. Elle voulait les combattre, mais elle était découragée par l'échec de ses premières tentatives. Elle se disait qu'elle ne pourrait jamais, qu'elle n'avait pas la force. Pourtant, elle essayait de nouveau. Mais il y avait d'autres défauts contre lesquels elle ne pouvait rien. Que faire contre sa laideur? Elle ne pouvait plus en douter. La certitude de son infortune lui était brusquement apparue un jour qu'elle se regardait dans la glace. Ça avait été un coup de foudre. Naturellement, elle s'exagérait encore le mal. Elle voyait son nez 10 fois plus gros qu'il n'était. Il lui semblait occuper tout le visage. Elle n'osait plus se montrer, elle aurait voulu mourir. Mais la jeunesse possède une telle force d'espoir que ses accès de découragement ne duraient point. Elle se figurait ensuite qu'elle s'était trompée. Elle cherchait à le croire, et elle en venait même, par instant, à trouver son nez très ordinaire et presque assez bien fait. Son instinct lui fit alors chercher, et bien maladroitement, quelques ruses enfantines, une façon de se coiffer qui dégagea moins le front et n'accusa pas autant les disproportions du visage. Elle n'y mettait pas de coquetterie. Aucune pensée d'amour n'avait traversé son esprit, ou c'était à son insu. Elle demandait peu de choses, rien qu'un peu d'amitié. Et ce peu, Christophe ne paraissait pas disposé à le lui accorder. Il semblait à Rosa qu'elle eût été parfaitement heureuse s'il avait bien voulu seulement lui dire, quand ils se rencontraient, un bonjour, un bonsoir amical, avec bonté. Mais le regard de Christophe était si dur et si froid à l'ordinaire. Il ne lui disait rien de désagréable. Elle eût mieux aimé des reproches que ce cruel silence. Un soir, Christophe était à son piano et jouait. Il s'était installé dans une étroite pièce mansardée tout en haut de la maison, afin d'être moins dérangé par le bruit. Rosa l'écoutait d'en bas avec émotion. Elle aimait la musique, quoiqu'elle eût le goût mauvais, ne l'ayant jamais formée. Tant que sa mère était là, elle restait dans un coin de la chambre, penchée sur son ouvrage, et elle semblait absorbée dans son travail. Mais son âme était attachée au son qui venait de là-haut. Aussitôt que par bonheur Amalia sortait, pour une course dans le voisinage, Rosa se levait d'un bond, jetait l'ouvrage et grimpait le cœur battant jusqu'au seuil de la mansarde. Elle retenait son souffle et appliquait son oreille contre la porte. Elle restait ainsi jusqu'à ce qu'Amalia rentrât. Elle allait sur la pointe des pieds, prenant garde de ne faire aucun bruit. Mais comme elle n'était pas très adroite, et comme elle était toujours pressée, elle manquait souvent de dégringoler dans l'escalier. Une fois qu'elle écoutait, le corps penché en avant, la joue collée à la serrure, elle perdit l'équilibre et vint buter la porte avec son front. Elle fut si consternée qu'elle en perdit haleine. Le piano s'arrêta net. Elle n'eut pas la force de se sauver. Elle se relevait quand la porte s'ouvrit. Christophe la vit, lui jeta un regard furibond, puis, sans une parole, l'écarta brutalement, descendit avec colère et sortit. Il ne revint que pour dîner, ne prêta aucune attention à ses regards désolés qui imploraient un pardon, fit comme si elle n'existait point, et pendant plusieurs semaines, il cessa complètement de jouer. Rosa en répandit d'abondantes larmes en secret. Personne ne s'en apercevait, personne ne faisait attention à elle. Elle priait Dieu ardemment. Pourquoi ? Elle ne savait trop. Elle avait besoin de confier ses chagrins. Elle était sûre que Christophe la détestait. Et malgré tout, elle espérait. Il suffisait que Christophe semblât lui témoigner quelques marques d'intérêt, qu'il parût écouter ce qu'elle disait, qu'il lui serra la main plus amicalement que d'habitude. Quelques mots imprudents des siens achevèrent de lancer son imagination sur une piste décevante. Toute la famille était pleine de sympathie pour Christophe. Ce grand garçon de 16 ans, sérieux et solitaire, qui avait une haute idée de ses devoirs, leur inspirait à tous une sorte de respect. Ses accès de mauvaise humeur, ses silences obstinés, son air sombre, ses manières brusques n'étaient point faits pour étonner dans une maison comme celle-là. Mais Madame Fogel, qui regardait tout artiste comme un fainéant, n'osait pas lui reprocher d'une façon agressive, comme elle en avait envie, les heures qu'il passait à bâiller aux corneilles, le soir, à la fenêtre de sa mansarde, immobile et penché sur la cour, jusqu'à ce que la nuit fût venue. Car elle savait que le reste du jour, il s'exténuait dans ses leçons, et elle le ménageait, comme les autres, pour une raison de derrière la tête, que personne ne disait et que chacun savait. Rosa avait saisi entre ses parents des regards échangés et des chuchotements mystérieux quand elle causait avec Christophe. D'abord, elle n'y prit pas garde. Puis elle en fut intriguée et émue. Elle brûlait de savoir ce qu'il disait, mais elle n'eut pas osé le demander. Un soir qu'elle était montée sur un banc du jardin, afin de dénouer la corde tendue entre deux arbres pour faire sécher le linge, elle s'appuya pour sauter à terre sur l'épaule de Christophe. Juste à ce moment, son regard rencontra celui de son grand-père et de son père, qui étaient assis, fumant leur pipe, le dos appuyé au mur de la maison. Les deux hommes échangèrent un clin d'œil, et Justus Euler dit à Fogel, « Ça fera un joli couple. » Sur un coup de coude de Fogel, qui remarquait que la fillette écoutait, il couvrit sa réflexion, fort habilement, il le pensait du moins, d'un « hum hum » retentissant, fait pour attirer l'attention à 20 pas à la ronde. Christophe, qui lui tournait le dos, ne s'aperçut de rien. Mais Rosa en fut si bouleversée qu'elle oublia qu'elle sautait et se tordit le pied. Elle fut tombée, si Christophe ne l'avait retenue, pestant tout bas contre l'éternelle maladroite. Elle s'était fait très mal, mais elle n'en montra rien, elle y songeait à peine, elle songeait à ce qu'elle venait d'entendre. Elle s'en fut vers sa chambre, chaque pas lui était une douleur, elle se raidissait pour qu'on ne s'en aperçût pas. Elle était inondée d'un trouble délicieux. Elle se laissa tomber sur la chaise au pied de son lit, et se cacha la figure dans les couvertures. Sa figure la brûlait. Elle avait les larmes aux yeux et elle riait. Elle avait honte. Elle aurait voulu se cacher au fond de la terre. Elle ne parvenait pas à fixer ses idées. Ses tempes battaient. Sa cheville lui causait des élancements aigus. Elle était dans un état de torpeur et de fièvre. Elle entendait vaguement les bruits du dehors, les cris des enfants qui jouaient dans la rue. Et les mots du grand-père résonnaient à son oreille. Elle riait tout bas, elle rougissait, le visage enfoui dans l'édredon. Elle priait, elle remerciait, elle désirait, elle craignait, elle aimait. Sa mère l'appela. Elle essaya de se lever. Au premier pas, elle éprouva une douleur si intolérable qu'elle faillit avoir une syncope. La tête lui tournait. Elle crut qu'elle allait mourir, et en même temps, elle voulait vivre de toutes les forces de son être, vivre pour le bonheur promis. Sa mère vint enfin, et toute la maison fut bientôt en émoi. Grondée suivant l'habitude, pensée, couchée, elle s'engourdissait dans le bourdonnement de sa douleur physique et de sa joie intérieure. Douce nuit, les moindres souvenirs de cette chère veillée lui restèrent sacrés. Elle ne pensait pas à Christophe, elle ne savait pas ce qu'elle pensait. Elle était heureuse. Le lendemain, Christophe, qui se croyait un peu responsable de l'accident, vint prendre de ses nouvelles. Et, pour la première fois, il lui témoigna une apparence d'affection. Elle en fut pénétrée de reconnaissance, elle bénit son mal. Elle eût souhaité de souffrir toute sa vie pour avoir toute sa vie une telle joie. Elle dut rester étendue plusieurs jours sans bouger. Elle les passa à ressasser les paroles du grand-père et à les discuter, car le doute était venu. Avait-il dit « cela fera » ou bien « cela ferait » Mais était-il même possible qu'il lui dit rien de semblable? Oui, il l'avait bien dit. Elle était certaine. Quoi, il ne voyait donc pas qu'elle était laide et que Christophe ne pouvait la souffrir? Mais il était si bon d'espérer. Elle en arrivait à croire qu'elle s'était peut-être trompée, qu'elle n'était pas aussi laide qu'elle croyait. Elle se soulevait sur sa chaise pour tâcher de se voir dans la glace accrochée en face. Elle ne savait que penser. Après tout, son grand-père et son père étaient meilleurs juges. On ne peut pas se juger soi-même. Mon Dieu, si c'était possible! Si par hasard, si sans qu'elle s'en doutât, si elle était jolie! Peut-être s'exagérait-elle aussi les sentiments peu sympathiques de Christophe. Sans doute, l'indifférent garçon, après les marques d'intérêt qu'il lui avait données au lendemain de l'accident, ne s'inquiétait plus d'elle. Il oubliait de prendre de ses nouvelles. Mais Rosa l'excusait. Il était préoccupé de tant de choses. Comment eût-il pensé à elle? On ne doit pas juger un artiste comme les autres hommes. Pourtant, si résignée qu'elle fût, elle ne pouvait s'empêcher d'attendre, avec un battement de cœur, quand il passait près d'elle, une parole de sympathie. Un seul mot, son imagination faisait le reste. Les commencements de l'amour ont besoin de si peu d'aliments. C'est assez de se voir, de se frôler en passant. Une telle force de rêve ruisselle de l'âme à ces moments qu'elle peut presque suffire à créer son amour. Un rien la plonge dans des extases qu'à peine retrouvera-t-elle plus tard quand, devenue plus exigeante, à mesure qu'elle est plus satisfaite, elle possède enfin l'objet de son désir. Rosa vivait tout entière, sans que personne en sût rien, dans un roman forgé par elle de toutes pièces. Christophe l'aimait en secret et n'osait le lui dire, par timidité. Ou pour quelque inepte raison, romanesque et romantique, qui plaisait à l'imagination de cette petite voix sentimentale. Elle bâtissait là-dessus des histoires sans fin, d'une absurdité parfaite. Elle le savait elle-même, mais ne voulait pas le savoir. Elle se mentait voluptueusement, pendant des jours, penchée sur son ouvrage. Elle en oubliait de parler. Tout son flot de paroles était rentré en elle, comme un fleuve disparu subitement sous la terre. Mais là, il prenait sa revanche. Quelle débauche de discours, de conversations muettes! Parfois, on voyait ses lèvres remuer, comme chez ceux qui ont besoin, quand ils lisent, d'épeler tout bas les syllabes, afin de les comprendre. Au sortir de ses rêves, elle était heureuse et triste. Elle savait que les choses n'étaient pas comme elle venait de se les raconter. Mais il lui en restait un reflet de bonheur, et elle se remettait à vivre avec plus de confiance. Elle ne désespérait pas de gagner Christophe. Sans se l'avouer, elle entreprit sa conquête. Avec la sûreté d'instinct que donne une grande affection, la fillette maladroite sut trouver, du premier coup, le chemin par où elle pouvait atteindre au cœur de son ami. Elle ne s'adressa pas directement à lui. Mais dès qu'elle fut guérie et qu'elle put de nouveau circuler à travers la maison, elle se rapprocha de Louisa. Le moindre prétexte lui était bon. Elle trouvait mille petits services à lui rendre. Quand elle sortait, elle ne manquait jamais de se charger de ses commissions. Elle lui épargnait les courses au marché, les discussions avec les fournisseurs, elle allait lui chercher l'eau à la pompe de la cour, elle faisait même une partie de son ménage. Elle lavait les carreaux, elle frottait le parquet, malgré les protestations de Louisa, confuse de ne pas faire seule sa tâche, mais si lasse qu'elle n'avait pas la force de s'opposer à ce qu'on lui vint en aide. Christophe restait absent tout le jour. Louisa se sentait abandonnée, et la compagnie de la fillette affectueuse et bruyante lui faisait du bien. Rosa s'installait chez elle. Elle apportait son ouvrage et elle se mettait à causer. La fillette, avec des ruses gauches, cherchait à amener la conversation sur Christophe. D'entendre parler de lui, d'entendre seulement son nom, la rendait heureuse. Ses mains tremblaient. Elle évitait de lever les yeux. Louisa, ravie de parler de son cher Christophe, racontait des petites histoires d'enfance, insignifiantes et un tantinet ridicules. Mais il n'était pas à craindre que Rosa les jugeât ainsi. Ce lui était une joie et un émoi indicibles de se représenter Christophe petit enfant et faisant les sottises ou les gentillesses de cet âge. La tendresse maternelle qui est dans le cœur de toute femme se mêlait délicieusement en elle à l'autre tendresse. Elle riait de bon cœur et elle avait les yeux humides. Louisa était attendrie de l'intérêt que Rosa lui témoignait. Elle devinait ce qui se passait dans le cœur de la fillette et elle n'en montrait rien. Mais elle s'en réjouissait, car seule de la maison, elle savait ce que valait ce cœur. Parfois, elle s'arrêtait de parler pour la regarder. Rosa, étonnée du silence, levait les yeux de son ouvrage. Louisa lui souriait. Rosa se jetait dans ses bras avec une brusquerie passionnée. Elle cachait sa figure dans le sein de Louisa. Puis elle se remettait à travailler et à causer comme avant. Le soir, lorsque Christophe rentrait, Louisa, reconnaissante des attentions de Rosa et poursuivant le petit plan qu'elle avait formé, ne tarissait pas en éloge de sa jeune voisine. Christophe était touché de la bonté de Rosa. Il voyait le bien qu'elle faisait à sa mère, dont la figure redevenait plus sereine, et il la remerciait avec effusion. Rosa balbutiait et se sauvait pour cacher son trouble. Elle paraissait mille fois plus intelligente ainsi et plus sympathique à Christophe que si elle lui avait parlé. Il la regarda d'un œil moins prévenu, et il ne cacha point sa surprise de découvrir en elle des qualités qu'il n'eût pas soupçonnées. Rosa s'en apercevait. Elle remarquait les progrès de sa sympathie et pensait que cette sympathie s'acheminait vers l'amour. Elle s'abandonnait plus que jamais à ses rêves. Elle était prête de croire, avec la belle présomption de l'adolescence, que ce que l'on désire de tout son être finit par s'accomplir. D'ailleurs, qu'y avait-il de déraisonnable dans son désir? Christophe n'eût-il pas dû être plus sensible qu'un autre à sa bonté, aux besoins affectueux qu'elle avait de se dévouer? Mais Christophe ne songeait pas à elle. Il l'estimait. Elle ne tenait aucune place dans sa pensée. Il avait de bien d'autres préoccupations en ce moment. Christophe n'était plus Christophe. Il ne se reconnaissait plus. Un travail formidable s'accomplissait en lui, bouleversait jusqu'au fond de son être. Christophe sentait une lassitude et une inquiétude extrêmes. Il était brisé sans cause, la tête lourde, les yeux, les oreilles, tous les sens ivres et bourdonnants. Impossible de fixer son esprit nulle part. L'esprit sautait d'objet en objet, dans une fièvre épuisante. Ce papillotement d'images lui donnait le vertige. Il l'attribua d'abord à un excès de fatigue et à l'énervement des jours de printemps. Mais le printemps passait et son mal ne faisait que croître. C'était ce que les poètes, qui ne touchent aux choses que d'une main élégante, nomment l'inquiétude de l'adolescence, le trouble de chérubin, l'éveil du désir amoureux dans la chair et le cœur juvénile. Comme si l'effroyable crise de l'être qui craque et meurt et renaît de toutes parts, comme si ce cataclysme, où tout, la foi, la pensée, l'action, la vie entière, semble près de s'anéantir et se reforge dans les convulsions de la douleur et de la joie, se réduisait à une niaiserie d'enfant. Tout son corps et son âme fermentaient. Il les considérait sans force pour lutter avec un mélange de curiosité et de dégoût. Il ne comprenait point ce qui se passait en lui. Son être se désagrégeait. Il passait les journées dans des torpeurs accablantes. Ce lui était une torture de travailler. La nuit, il avait des sommeils pesants et hachés, des rêves monstrueux, des poussées de désir. Une âme de bête se ruait en lui. Brûlant, trempé de sueur, il se regardait avec horreur. Il tâchait de secouer les pensées immondes et démentes, et il se demandait s'il devenait fou. Le jour ne le mettait pas à l'abri de ses pensées de brute. Dans ses bas-fonds de l'âme, il se sentait couler. Rien à quoi se retenir, nulle barrière à opposer au chaos. Toutes ses armures, toutes ses forteresses dont le quadruple rempart l'entourait fièrement, son dieu, son art, son orgueil, sa foi morale, tout s'écroulait, se détachait pièce à pièce. Il se voyait nu, lié, couché, sans pouvoir faire un mouvement, comme un cadavre sur qui grouille la vermine. Il avait des sursauts de révolte. Qu'était devenue sa volonté? Il l'appelait en vain. Tels les efforts qu'on fait dans le sommeil lorsqu'on sait que l'on rêve et qu'on veut s'éveiller. On ne réussit qu'à rouler de rêve en rêve comme une masse de plomb. À la fin, il trouvait moins pénible de ne pas lutter. Il prenait son parti avec un fatalisme apathique. Le flot régulier de sa vie semblait interrompu. Tantôt il s'infiltrait dans des crevasses souterraines, tantôt il rejaillissait avec une violence saccadée. La chaîne des jours était brisée. Au milieu de la plaine unie des heures s'ouvraient des trous béants, où l'être s'engouffrait. Christophe assistait à ce spectacle comme s'il lui était étranger. Tout et tous, et lui-même, lui devenaient étrangers. Il continuait d'aller à ses affaires, il accomplissait sa tâche d'une façon automatique. Il lui semblait que la mécanique de sa vie allait s'arrêter d'un instant à l'autre. Les rouages étaient faussés. À table avec sa mère et ses hôtes, à l'orchestre, au milieu des musiciens et du public, soudain se creusait un vide dans son cerveau. Il regardait avec stupeur les figures grimaçantes qui l'entouraient. Et il ne comprenait plus. Il se demandait « Quel rapport y a-t-il entre ces êtres ?» et il n'osait même pas dire « Et moi ?» car il ne savait plus s'il existait. Il parlait et sa voix lui semblait sortir d'un autre corps. Il se remuait et il voyait ses gestes de loin, de haut, du faîte d'une tour. Il se passait la main sur le front, l'air égaré. Il était près d'actes extravagants. Surtout quand il était le plus en vue, quand il était tenu de se surveiller davantage. Par exemple, les soirs où il allait au château, ou quand il jouait en public. Il était pris subitement d'un besoin impérieux de faire quelques grimaces, de dire une énormité, de tirer le nez au grand-duc, ou de flanquer son pied dans le derrière d'une dame. Il lutta tout un soir qu'il conduisait l'orchestre contre l'envie insensée de se déshabiller en public. Et du moment qu'il entreprit de repousser cette idée, il en fut hanté. Il lui fallut toute sa force pour n'y point céder. Au sortir de cette lutte imbécile, il était trempé de sueur et le cerveau vidé. Il devenait vraiment fou. Il lui suffisait de penser qu'il ne fallait pas faire une chose pour que cette chose s'imposât à lui avec la ténacité affolante d'une idée fixe. Ainsi, sa vie se passait en une succession de forces démentes et de chutes dans le vide. Un vent furieux dans le désert. D'où venait ce souffle? Qu'était cette folie? De quel abîme sortaient ces désirs qui lui tordaient les membres et le cerveau? Il était comme un arc qu'une main forcenée tend jusqu'à le briser. Vers quel but inconnu? Et qu'elle rejette ensuite comme un morceau de bois mort. De qui était-il la proie? Il n'osait approfondir. Il se sentait vaincu, humilié, et il évitait de regarder en face sa défaite. Il était là et lâche. Il comprenait maintenant ces gens qu'il méprisait jadis, ceux qui ne veulent pas voir la vérité gênante. Dans ces heures de néant, quand le souvenir lui revenait du temps qui passait, du travail abandonné, de l'avenir perdu, il était glacé d'effroi. Mais il ne réagissait point. Et sa lâcheté trouvait des excuses dans l'affirmation désespérée du néant. Il goûtait une amère volupté à s'y abandonner, comme une épave au fil de l'eau. À quoi bon lutter? Il n'y avait rien, ni beau, ni bien, ni Dieu, ni vie, ni être d'aucune sorte. Dans la rue, quand il marchait, tout à coup la terre lui manquait. Il n'y avait ni sol, ni air, ni lumière, ni lui-même. Il n'y avait rien. Sa tête l'entraînait, le front en avant. À peine pouvait-il se retenir au bord de la chute. Il pensait qu'il allait tomber, subitement, foudroyé. Il pensait qu'il était mort. Christophe faisait peau neuve. Christophe faisait âme neuve. Et voyant tomber l'âme usée et flétrie de son enfance, il ne se doutait pas qu'il lui en poussait une nouvelle, plus jeune et plus puissante. Comme on change de corps au courant de la vie, on change d'âme aussi, et la métamorphose ne s'accomplit pas toujours lentement au fil des jours. Il est des heures de crise où tout se renouvelle d'un coup. L'ancienne dépouille tombe. Dans ces heures d'angoisse, l'être croit tout fini, et tout va commencer. Une vie meurt, une autre est déjà née. Il était seul dans sa chambre une nuit, accoudé devant sa table, à la lueur d'une bougie. Il tournait le dos à la fenêtre. Il ne travaillait pas. Depuis des semaines, il ne pouvait travailler. Tout tourbillonnait dans sa tête. Il avait tout remis en question à la fois, religion, morale, art, toute la vie. Et dans cette dissolution universelle de sa pensée, nul ordre, nulle méthode. Il s'était jeté sur un amas de lectures puisées au hasard dans la bibliothèque hétéroclite de grand-père ou dans celle de Fogel. Livres de théologie, de sciences, de philosophie, souvent dépareillés, où il ne comprenait rien, ayant tout à apprendre. Il n'en pouvait finir aucun, et se perdait en des divagations, des flâneries sans fin, qui laissaient une lassitude, une tristesse mortelle. Il s'absorbait ce soir-là dans une torpeur épuisante. Tout dormait dans la maison. Sa fenêtre était ouverte. Pas un souffle ne venait de la cour. D'épais nuages étouffaient le ciel. Christophe regardait, comme un hébété, la bougie se consumer au fond du chandelier. Il ne pouvait se coucher. Il ne pensait à rien. Il sentait ce néant se creuser d'instant en instant. Il s'efforçait de ne pas voir l'abîme qu'il aspirait. Et malgré lui, il se penchait au bord. Dans le vide, le chaos se mouvait. Les ténèbres grouillaient. Une angoisse le pénétrait. Son dos frissonnait, sa peau se hérissait. Il se cramponnait à la table afin de ne pas tomber. Il était dans l'attente convulsive de choses indicibles, d'un miracle, d'un dieu. Soudain, comme une écluse qui s'ouvre, dans la cour, derrière lui, un déluge d'eau. Une pluie lourde, large, droite, croula. L'air immobile tressaillit. Le sol sec et durci sonna comme une cloche. Et l'énorme parfum de la terre brûlante et chaude, ainsi qu'une bête, l'odeur de fleurs, de fruits et de chair amoureuse, monta dans un spasme de fureur et de plaisir. Christophe, halluciné, tendu de tout son être, frémit dans ses entrailles. Le voile se déchira, ce fut un éblouissement. À la lueur de l'éclair, il vit, au fond de la nuit, il vit, il fut le Dieu. Le Dieu était en lui. Il brisait le plafond de la chambre, les murs de la maison. Il faisait craquer les limites de l'être. Il remplissait le ciel, l'univers, le néant. Le monde se ruait en lui, comme une cataracte. Dans l'horreur et l'extase de cet effondrement, Christophe tombait aussi, emporté par le tourbillon qui broyait comme des pailles les lois de la nature. Il avait perdu le souffle. Il était ivre de cette chute en Dieu. Dieu abîme, Dieu gouffre, brasier de l'être, ouragan de la vie, folie de vivre, sans but, sans frein, sans raison, pour la fureur de vivre. Quand la crise se dissipa, il tomba dans un profond sommeil, tel qu'il n'en avait pas eu depuis longtemps. Le lendemain, à son réveil, la tête lui tournait. Il était brisé, ainsi que s'il avait bu. Mais il gardait au fond du cœur un reflet de la sombre et puissante lumière qu'il avait terrassée la veille. Il chercha à la rallumer, vainement. Plus il la poursuivait, plus elle lui échappait. Dès lors, son énergie fut constamment tendue dans l'effort pour faire revivre la vision d'un instant. Tentatives inutiles. L'extase ne répondait point à l'ordre de la volonté. Pourtant, cet accès de délire mystique ne resta pas isolé. Il se reproduisit plusieurs fois, mais jamais avec l'intensité de la première. C'était toujours aux instants où Christophe l'attendait le moins, à de brèves secondes, si brèves, si soudaines, le temps de lever les yeux ou d'avancer le bras, que la vision avait passé, avant qu'il eût le temps de penser que c'était elle. Et il se demandait ensuite s'il n'avait pas rêvé. Après le bolide enflammé qui avait brûlé la nuit, c'était une poussière lumineuse, de petites lueurs fugitives que l'œil avait peine à saisir au passage. Mais elle reparaissait de plus en plus souvent. Elle finissait par entourer Christophe d'un halo de rêves perpétuels et diffus où son esprit se diluait. Tout ce qui pouvait le distraire de cette demi-hallucination l'irritait. Impossible de travailler. Il n'y pensait même plus. Toute société lui était odieuse. Et plus que toute, celle de ses plus intimes, celle même de sa mère, parce qu'il prétendait s'arroger plus de droit sur son âme. Il quitta la maison. Il prit l'habitude de passer les journées au dehors. Il ne rentrait qu'à la nuit. Il cherchait la solitude des champs pour s'y livrer, tout son soûl comme un maniaque, à l'obsession de ses idées fixes. Mais dans le grand air qui lave, au contact de la terre, cette obsession se détendait, ses idées perdaient leur caractère de spectre. Son exaltation ne diminua point, elle redoubla plutôt. Mais ce ne fut plus un délire dangereux de l'esprit, ce fut une saine ivresse de tout l'être, corps et âme, fou de force. Il redécouvrit le monde, comme s'il ne l'avait jamais vu. Ce fut une nouvelle enfance. Il semblait qu'une parole magique eût prononcé un « Sésame, ouvre-toi ». La nature flambait d'allégresse. Le soleil bouillonnait. Le ciel liquide, fleuve transparent, coulait. La terre râlait et fumait de volupté. Les plantes, les arbres, les insectes, les êtres innombrables étaient les langues étincelantes du grand feu de la vie qui montait en tournoyant dans l'air. Tout criait de plaisir. Et cette joie était sienne, cette force était sienne. Il ne se distinguait point du reste des choses. Jusque-là, même dans les jours heureux de l'enfance, où il voyait la nature avec une curiosité ardente et ravie, les êtres lui semblaient de petits mondes fermés, effrayants ou burlesques, sans rapport avec lui, et qu'il ne pouvait comprendre. Était-il même bien sûr qu'il sentait, qu'il vivait? C'étaient des mécaniques étranges, et Christophe avait pu, avec la cruauté inconsciente de l'enfance, déchiqueter de malheureux insectes sans songer qu'ils souffraient, pour le plaisir de voir leurs contorsions grotesques. Il avait fallu que l'oncle Gottfried, si calme d'ordinaire, lui arrachât des mains avec indignation une mouche qu'il torturait. Le petit avait essayé de rire d'abord, puis il avait fondu en larmes, ému par l'émotion de l'oncle. Il commençait à comprendre que sa victime existait vraiment, aussi bien que lui, et qu'il avait commis un crime. Mais si, depuis, il n'eût pas fait de mal aux bêtes, il n'éprouvait pour elles aucune sympathie. Il passait auprès, sans chercher à sentir ce qui s'agitait dans leur petite machine. Il avait plutôt peur d'y penser. Cela avait l'air d'un mauvais rêve. Et voici que tout s'éclairait maintenant. Ces obscures consciences devenaient à leur tour des foyers de lumière. Vautrés dans l'herbe où pullulent les êtres, à l'ombre des arbres bourdonnant d'insectes, Christophe regardait l'agitation fiévreuse des fourmis, les araignées aux longues pattes qui semblent danser en marchant, les sauterelles bondissantes qui sautent de côté, les scarabées lourds et hâtifs, les vers nus, glabres et roses, à la peau élastique, marbrés de plaques blanches. Où, les mains sous la tête, les yeux fermés, il écoutait l'orchestre invisible, les rondes d'insectes tournant avec frénésie dans un rayon de soleil autour des sapins odorants, les fanfares des moustiques, les notes d'orgue des guêpes, les essaims d'abeilles sauvages vibrant comme des cloches à la cime des bois, et le divin murmure des arbres balancés, le doux frémissement des branches dans la brise, le fin froissement des herbes ondulantes, comme un souffle qui plisse le front d'un lac limpide, comme le frôlement de pas amoureux qui passent et s'effacent dans l'air. Tous ces bruits, tous ces cris, il les entendait en lui. Du plus petit au plus grand de ces êtres, la même rivière de vie coulait. Elle le baignait aussi. Il était de leur sang, il entendait l'écho fraternel de leur joie. Leur force se mêlait à la sienne, comme un fleuve grossi par des milliers de ruisseaux. Il se noyait en eux. Sa poitrine était près d'éclater sous la violence de l'air qui crevait les fenêtres et faisait irruption dans son cœur asphyxié. Le changement était trop brusque. Après avoir trouvé le néant partout, quand il n'était préoccupé que de sa propre existence et qu'il la sentait se dissoudre comme une pluie, voici qu'il trouvait partout l'être sans fin et sans mesure, maintenant qu'il aspirait à s'oublier dans l'univers. Il lui semblait qu'il sortait du tombeau. La vie coulait à plein bord. Il y nageait avec volupté, et, entraîné par elle, il se croyait pleinement libre. Il ne savait pas qu'il l'était moins que jamais, qu'aucun être n'est libre, que la loi même qui régit l'univers n'est pas libre, que la mort seule peut être délivre. Mais la chrysalide qui sortait de sa gaine s'étirait avec délices dans son enveloppe nouvelle. Elle n'avait pas eu le temps de reconnaître encore les bornes de sa nouvelle prison. Un nouveau cycle de jours commença. Jour d'or et de fièvre, mystérieuse et enchantée, comme lorsqu'il était enfant, et qu'il découvrait une à une les choses pour la première fois. De l'aube au crépuscule, il vivait dans un mirage perpétuel. Toutes ses occupations étaient abandonnées. Le consciencieux garçon, qui durant des années n'avait pas manqué, même malade, une leçon, ni une répétition d'orchestre, trouvait de mauvais prétextes pour esquiver le travail. Il ne craignait pas de mentir. Il n'en avait pas de remords. Les principes de vie stoïques, sous lesquels il avait eu plaisir jusque-là à ployer sa volonté, la morale, le devoir, lui apparaissaient maintenant sans vérité. Leur despotisme jaloux se brisait contre la nature. La saine, la forte, la libre nature humaine, voilà la seule vertu. Au diable tout le reste. Il y a de quoi rire de pitié quand on voit les petites règles tatillonnes de politique prudente et que le monde décore du nom de morale et où il prétend mettre sous clé la vie. Ridicule taupinière. La vie passe et tout est balayé. Christophe, crevant d'énergie, était pris de la fureur de détruire, de brûler, de briser, d'assouvir par les actes aveugles et forcenés la force qui l'étouffait. Ses accès finissaient d'ordinaire par de brusques détentes. Il pleurait, il se jetait à terre, il embrassait la terre, il eût voulu y enfoncer ses dents, ses mains se repaître d'elle. Il tremblait de fièvre et de désir. Un soir, il se promenait à l'orée d'un bois. Ses yeux étaient grisés de lumière, la tête lui tournait. Il était dans cet état d'exaltation où tout est transfiguré. La lumière veloutée du soir y ajoutait sa magie. Des rayons de pourpre et d'or flottaient sous les châtaigniers. Des lueurs phosphorescentes semblaient sortir des prés. Le ciel était voluptueux et doux comme des yeux. Dans une prairie voisine, une fille fanait. En chemise et jupon courts, le cou et les bras nus, elle ratissait l'herbe et la mettait en tas. Elle avait le nez court, les joues larges, le front rond, un mouchoir sur les cheveux. Le soleil couchant rougissait sa peau brûlée comme une poterie qui semblait absorber les derniers rayons du jour. Elle fascina Christophe. Appuyé contre un hêtre, il la regardait s'avancer vers la lisière du bois. Elle ne s'occupait pas de lui. Un moment, elle leva son regard indifférent. Il vit ses yeux bleus durs dans la face hâlée. Elle passa si près que quand elle se pencha pour ramasser des herbes, par la chemise entrebâillée, il vit un duvet blond sur la nuque et l'échine. L'obscur désir qui gonflait éclata tout d'un coup. Il se jeta sur elle par derrière, l'empoigna par la taille, lui renversa la tête en arrière, lui enfonça dans la bouche entrouverte sa bouche. Il baisa les lèvres sèches et gercées. Il se heurta aux dents qui le mordirent de colère. Ses mains couraient sur les bras rudes, sur la chemise trempée de sueur. Elle se débattit. Il serra plus étroitement. Il eut envie de l'étrangler. Elle se dégagea, cria, cracha, s'essuya les lèvres avec sa main et le couvrit d'injures. Il l'avait lâchée et s'enfuyait à travers champs. Elle lui lança des pierres et continuait de décharger sur lui une litanie d'appellations ordurières. Il rougissait, bien moins de ce qu'elle pouvait dire ou penser que de ce qu'il pensait lui-même. L'inconscience subite de son acte le remplissait de terreur. Qu'avait-il fait? Qu'allait-il faire? Ce qu'il en pouvait comprendre ne lui inspirait que dégoût, et il était tenté par ce dégoût. Il luttait contre lui-même, il ne savait de quel côté était le vrai Christophe. Une force aveugle l'assaillait, il la fuyait en vain. C'était se fuir soi-même. Que ferait-elle de lui? Que ferait-il demain, dans une heure, le temps de traverser en courant la terre labourée, d'arriver au chemin? Y arriverait-il seulement? Ne s'arrêterait-il pas pour revenir en arrière et courir à cette fille? Et alors, il se souvenait de la seconde de délire où il la tenait à la gorge. Tous les actes étaient possibles. Un crime même. Oui, même un crime. Le tumulte de son cœur le faisait haleter. Arrivé au chemin, il s'arrêta pour respirer. La fille causait là-bas avec une autre fille, attirée par ses cris. Et les poings sur les hanches, elle le regardait en riant aux éclats. Il revint. Il s'enferma chez lui plusieurs jours sans bouger. Il ne sortait même en ville que quand il y était forcé. Il évitait peureusement toute occasion de passer les portes, de s'aventurer dans les champs. Il craignait d'y retrouver le souffle de folie qui s'était abattu sur lui comme un coup de vent dans un calme d'orage. Il croyait que les murailles de la ville pourraient l'en préserver. Il ne pensait pas qu'il suffit pour que l'ennemi se glisse d'une fente imperceptible entre deux volets clos de l'épaisseur d'un regard.